Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqués. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons explorer un pan du cinéma que nous avons délaissé jusqu'à récemment, le cinéma d'animation, avec l'un de ses plus grands artistes en France et qui est avant tout un grand cinéaste. Bonjour Jean-François Leguioni.
Bonjour.
Votre nom est familier des auditeurs de Négatif, puisque vous êtes à l'origine du film Le Voyage du Prince, sorti en décembre 2019, et dont nous avions reçu votre co-réalisateur, Xavier Picard, pour un court entretien lors du Arras Film Festival. Un conte philosophique dans un monde de singes, utilisant les dernières technologies d'animation entre 2D et 3D. Au travers de votre œuvre, vous avez toujours utilisé des techniques picturales et visuelles variées, écrivant vous-même les histoires de vos films avec votre scénariste Annie Cleuré et supervisant leur réalisation. Depuis votre premier court-métrage, La Demoiselle et le violoncelliste, en 1965, vous tracez une ligne résolument indépendante, originale, dans le paysage français de l'animation et du cinéma. Nous reviendrons sur vos œuvres les plus avant-gardistes, comme La Traversée de l'Atlantique à la rame, Palme d'or du court-métrage à Cannes en 78, ainsi que Gwen, le livre de sable, long-métrage post-apocalyptique et minimaliste, peint à la gouache. Parmi vos autres films, nous pouvons citer Le Château des Singes en 99, L'île de Blackmore en 2004, Le Tableau en 2011 et plus récemment Louise en hiver en 2016. Vous défendez les films d'animation comme étant du cinéma au même titre que la fiction ou le documentaire, et le temple de la politique des auteurs au cinéma, la Cinémathèque française, vous a donné raison en vous consacrant une rétrospective en 2016, la première pour un cinéaste qui faisait des films d'animation. Alors Jean-François Leguioni, votre parcours de cinéaste, de vos premiers essais avec Paul Grimaud à la révolution numérique en animation, mais aussi votre univers poétique, politique et onirique, de personnages, de décors, de sons, de musique et de mouvements, nous allons explorer toutes ces dimensions de votre cartographie imaginaire avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif.
Avant toute chose, Jean-François Leguioni, quel mot utiliser pour décrire ce que vous faites dans la vie?
Oui. Alors c'est difficile. Plus c'est simple, plus c'est difficile hein, quand on veut parler de soi. D'ailleurs, le mieux, c'est de ne pas parler de soi, c'est de parler de ce qu'on fait, en fait. Et si on peut, en effet, mieux se connaître à travers ce qu'on a fait, ça peut être un simple dessin, ça peut être... quelques notes de musique, parce que autrement ça me paraît difficile. Je ne trouverais pas, parler d'un mot, certes pas, même une phrase, j'arriverais pas à me l'attribuer.
Est-ce qu'on ne peut pas vous résumer comme réalisateur, dessinateur? Ce genre de mot, c'est trop réducteur.
Écoutez, je suis d'abord un raconteur, alors voilà. Un raconteur, c'est-à-dire j'écris beaucoup d'histoires, petites histoires, dans lesquelles, de temps en temps, j'extrais l'une d'entre elles qui me permet d'imaginer quelque chose de visuel, quelque chose qui me donne envie de dessiner, ou de faire de la photo. Enfin, l'image, pour moi, n'est pas réduite au dessin. C'est l'image en général, c'est-à-dire j'ai envie de faire un film de temps en temps. Alors, j'aurais pu faire davantage de prises visuelles, j'en ai fait un petit peu, mais très, très peu. Je pense que j'étais un peu trop timide pour me consacrer à ce moyen d'expression. Le dessin me convenait très bien, donc je fais des films d'animation. Alors, donc, j'attrape une histoire, c'est comme dans un panier où il y a plein de petites plottes de laine, vous savez, qu'on ramasse pour ne pas les jeter. Et puis je tire dessus et puis voilà. Puis je me mets à dessiner à ce moment-là. Et assez rapidement, le projet se met en place. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas encore la volonté de faire un film. C'est encore une histoire.
Est-ce que être raconteur, c'est être avant tout un conteur?
Oui. Alors, conteur, ça fait toujours un peu prétentieux parce que ça fait le mec qui s'assoit au pied d'un arbre et non, qui viennent l'écouter. Et puis, il donne la bonne parole. Alors, évidemment, c'est pas ça du tout, quoi. Mais, par contre, ce qui est important, c'est que le conteur, il a quand même le pouvoir du temps. C'est le maître du temps. Contrairement, souvent, on nous associe, quand on ne connaît pas très bien notre métier, on nous associe à la bande dessinée. Et c'est drôle parce que ça n'a absolument rien à voir. Notre métier n'a rien à voir pour une raison très simple. C'est que nous, on est dans la dimension du temps, on est dans la dimension du cinéma. Notre boulot, c'est d'abord de faire un film avant même de faire du dessin. Et alors que dans la bande dessinée, le temps n'existe pas. Le temps est celui du lecteur. Il en fait ce qu'il veut. Eh ben nous, on est assez prétentieux. C'est pour ça qu'on rejoint peut-être cette idée prétentieuse du conteur. C'est-à-dire qu'on prend le lecteur ou le spectateur par la main et on ne le lâche plus. Il est obligé de nous suivre. Et je ne sais pas pourquoi j'aime cette idée de conteur.
Vous avez utilisé dans un entretien le terme de navigateur imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'un navigateur imaginaire ?
Oui, parce que j'aurais bien aimé faire du bateau comme un vrai marin. Je suis assez fasciné par la mer. Mais j'ai un peu la trouille de la mer. J'ai eu un bateau en Bretagne il y a quelques années. Et je me rappelle, je n'osais même pas sortir de l'estuaire dans lequel le bateau était ancré. Enfin, je faisais un petit tour, puis je revenais vite fait parce qu'il y avait des cailloux partout. Je suis pas un aventurier. Par contre, mes histoires sont des aventures. Je suis un aventurier par la pensée. Ce qui est le cas de beaucoup d'écrivains, d'ailleurs.
Du coup, vous êtes vous-même un navigateur de l'imaginaire, au sens où vous créez des mondes imaginaires ?
Ben, avec l'imagination, on fait ce qu'on veut. Hein. Après, ce n'est pas suffisant pour faire quelque chose qui intéresse les autres. Donc, on développe un imaginaire qui parle à tout le monde, surtout si on est sensible à ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans la nature, ce qui se passe dans le monde. À ce moment-là, votre imaginaire prend un chemin un peu précis et si le chemin est réussi, il y a un sens qui se dégage de ce qu'on fait.
Alors justement, à propos d'imaginaire, à propos de nature et de monde imaginaire, on va essayer de comprendre votre univers et votre processus de création à travers l'exemple le plus récent, Le Voyage du Prince, qui est votre dernier film en date. Véritable conte philosophique, c'est l'histoire d'un vieux prince, le prince Laurent, du royaume des Lankos, qui échoue sur les rives d'une contrée qui n'a jamais été en contact avec son propre pays, où vivent une autre civilisation de singes, les Newkos, dans un monde qui est totalement dénué d'humains. C'est le même monde et le même prince que celui du Château des Singes, un autre de vos films sorti il y a 20 ans. Dans Le Voyage du Prince, donc, le prince découvre une civilisation gouvernée par des scientifiques et qui ressemble curieusement à l'Europe de la fin du 19e siècle. En compagnie d'un jeune garçon, il voyage dans ce pays menacé par la forêt profonde. Alors Jean-François Laguioni, d'où est née l'idée de ce film qui ressuscite le prince pour qu'il nous conte son voyage ?
C'est vrai que 20 ans plus tôt, j'avais déjà réalisé un film, Le Château des Singes, qui traitait du thème de l'étranger, qui traitait du thème de l'autre. Mais je l'avais fait de façon assez légère. Et puis, j'avais une sorte d'insatisfaction me disant quand même ce sujet qui est un sujet qui est devenu extrêmement actuel. Il a toujours été, en fait. Hein. C'est un problème vieux comme le monde, vieux comme le singe. Mais en ce moment, on est sensible à ça et je le suis naturellement autant que mes congénères. Et j'avais envie de reprendre le thème sous une autre forme, une forme peut-être à la fois plus grave et plus poétique. C'est curieux parce qu'on attribue souvent à la poésie une forme de légèreté. Mais la poésie peut être aussi dans la gravité. Ça ne veut pas dire que j'ai voulu lancer quelques messages, que ce soit. Alors là, je suis très éloigné de cette idée, mais parler simplement des choses qui me touchent.
Quelles sont ces choses ?
Ben, le racisme, en premier lieu, tout ce qui est anti, tout ce qui est contre, tout ce qui est tourné vers la vie, qui engendre la violence, me répugne. Enfin. Et que les choses soient sincères ou pas, ça me touche. Alors, c'est pas le rôle d'un cinéaste ou d'un écrivain ou d'un dessinateur de tirer des conclusions d'une situation. C'est le rôle des philosophes peut-être davantage. Mais les évoquer, oui, c'est presque une nécessité. Ensuite, c'est au spectateur, au lecteur, etc., d'en tirer des conclusions. Donc cette histoire, elle s'est imposée, mais très facilement, parce qu'il y avait déjà une parabole dans le premier film. Et en mettant les deux films bout à bout, on arrive à une parabole en forme de U, c'est-à-dire une descente de la canopée dans le premier, avec une première réaction de racisme.
Et d'accueil de l'étranger.
Ensuite, la traversée de la mer, avec le désir d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, ce qui est un désir tout à fait naturel, et de retrouver la situation inverse, c'est-à-dire un personnage qui se pensait supérieur au petit singe qu'il avait adopté, qui était tombé de la canopée, et qui se trouve à son tour objet de la discrimination, avec une société qui se prétend plus civilisée que la sienne. Voilà. Bon, c'était assez simple. Et puis, pour terminer la parabole, on remonte sur la canopée, qui est quand même une petite notion d'espoir.
Une fois que vous avez eu l'idée du film, par quoi commencez-vous votre travail ?
Alors, mes films sont toujours des histoires que j'écris sous une forme littéraire. Même si elles ne sont pas éditées à ce moment-là, ce sont d'abord des histoires écrites. Ensuite, avec Annick, on en fait un scénario. Donc, les choses se construisent peu à peu. Et puis, une fois qu'on a un scénario, je sais que je vais m'embarquer dans un temps qui est le temps du long métrage d'animation, qui est un temps très long, parce que c'est compliqué pour les producteurs de financer un film d'animation. Tous mes films ont été assez difficiles à produire. Je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas évidents. Quoi. Donc il faut du temps, en général c'est entre 2 et 3 ans. Pendant ce temps-là, naturellement, je ne vais pas rester à me tourner les pouces, donc je commence le film. Alors commencer le film, pour moi, c'est de prendre des grandes feuilles à dessin et de commencer à dessiner le film tel qu'il me pénètre, tel qu'il est. L'histoire, bien sûr, je l'ai dans la tête à ce moment-là. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est quels vont être le physique approximatif de mes personnages. Donc, ça, en quelques coups de crayon, on établit un schéma. Et puis, je dessine les scènes comme elles me viennent, comme si je regardais dans un fauteuil le film que j'ai envie de faire. À l'avance.
Vous êtes le premier spectateur.
Mon premier spectateur, à condition que le film se passe au ralenti pour que j'ai le temps de le dessiner. Bon, je fais des croquis très très rapides. Des croquis, ils sont très vilains. Des refs, comme on dit. Puis, chaque dessin correspond à un plan du film dans ma tête. Je photographie les dessins quand j'ai une séquence. Et je les monte. Ce qui fait que peu à peu, sur la totalité du film, au bout d'un an à peu près, j'ai la maquette du film. Mais une maquette sonore. C'est-à-dire que pour moi, faire un film, c'est avancer presque en même temps tous les niveaux importants du film. Alors c'est quoi ? C'est pas seulement le dessin, naturellement. C'est surtout le rythme de ces dessins, la musique, les voix, s'il y en a, le texte off, etc. Et on fait, avec Yannick, on fait toutes les voix des personnages. Hein. Ça n'a pas d'importance. Pour le moment, c'est quelque chose qui ne s'adresse qu'à nous et au producteur à qui on va, la maquette terminée, proposer ce travail de façon à s'assurer, à nous assurer que le producteur et nous, on a envie de faire le même film. Voilà. À ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré Xavier Picard. C'est au moment où le film était en maquette, terminé, où le producteur commençait à se dire « bon, ben, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec cette histoire », qu'il a fallu préciser les personnages, faire quelques décors pour déterminer le style du film et les conditions techniques dans lesquelles il va être réalisé. Et après, ça a été du bonheur, parce que je me sentais plus tout seul. Mais pendant un an, des fois ça dure même deux ans, je suis seul avec mon projet.
Et c'est ce qu'on appelle l'animatique sauvage.
Oui.
C'est un travail vraiment de maquette, en fait, du film.
Oui, c'est la maquette.
Plus qu'un brouillon, c'est vraiment une maquette.
C'est le brouillon du film, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est suffisamment précis pour qu'on puisse le projeter, même dans une salle, à des spectateurs, de façon à s'assurer que le film a le bon timing et surtout que toutes les situations sont lisibles, appréciables, etc. Même si les dessins ne bougent pas, si les dessins, évidemment, sont en noir et blanc, ça n'a pas d'importance. Parce que pour moi, c'est un film que je fais. À ce moment-là, le dessin n'a pas plus d'importance que la parole, que la musique, que le montage.
Ces animatiques, est-ce qu'elles sont dédiées uniquement au producteur ou est-ce qu'elles sont dédiées aussi à vous ou à d'autres personnes qui travaillent avec vous?
Oui, d'abord à nous, pour vérifier qu'en effet que le film se présente bien, ensuite au producteur. Parfois, on n'a même pas encore le producteur. M'est arrivé de faire des animatiques où on n'avait pas du tout encore de production. Et puis, on vérifie si la maquette marche bien auprès de quelques copains. On réunit des copains et même parfois dans une salle, des gens qui ne connaissent pas du tout le projet et qui vont le découvrir. Et si la maquette est bien faite, le film déjà doit fonctionner pour le public. Alors, ça veut peut-être dire que je fais quelque chose qui a un langage cinématographique relativement classique. J'ai vu tellement de films dans ma vie, pas des films d'animation, mais les cinémas américains m'a profondément formé. J'ai l'impression que le langage cinématographique, je le possède. Et peut-être que faire une maquette dans ces conditions-là est plus facile que si je ne maîtrisais pas cette forme d'expression.
Justement, cette pratique solitaire, est-ce que c'est votre recette pour rester auteur du film qui ensuite va être mis en forme par 200 personnes ?
Voilà, oui, vous avez raison. Alors parfois, j'ai fait des films avec une petite équipe. Hein. Louise en hiver, par exemple, on n'était vraiment pas très nombreux. On avait une dizaine d'animateurs. En tout, on a dû faire le film, on a dû être, entre 20 et 30. Donc, à ce moment-là, c'est tout à fait gérable. Mais pour le Château des Singes, par exemple, je sortais d'un film, Gwen et le Livre de Sable, on était 10 pour... On a commencé à 6, on a fini au bout de 4 ans, on était 10. Ce qui est la formule la plus artisanale que l'on puisse imaginer. Eh bien, le film n'a pas marché, donc... Il a fallu que... On avait créé un studio, la fabrique. Il fallait que le studio reste en vie. après cet échec commercial, donc j'ai fait un peu le producteur, bon, très bien d'ailleurs, et on s'est promis avec mes collègues que si on faisait un long métrage, dans ces temps-là où le film pour adultes n'existait pas, il ne pouvait pas marcher, il fallait faire un film quand même famille, pas forcément pour enfants, parce que c'est très réducteur, mais plus généralement famille. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le Château des Singes. Et très rapidement, la production s'est montée, mais alors d'une façon exagérée, énorme pour moi, parce qu'il y avait 4 producteurs européens. Le film a été fabriqué dans 5 pays différents et il a fallu trouver une technique graphique qui puisse en effet correspondre aux animateurs de ces 5 pays-là. Et je me rendais compte très rapidement, avant que la production démarre, que je mettais le doigt dans une espèce de machine énorme, quoi. On allait être 200 ou 300 personnes, hein, comme vous le dites. Et ma réaction, c'est de me dire, attention, il faut que tu trouves un moyen de rester l'auteur de cette aventure. C'est toi qui as eu cette histoire en tête. Il faut que tu en gardes jusqu'au moment où le film va sortir sur l'écran au moins 75% de son âme, de son élan, etc. Et j'ai eu l'idée de faire cette maquette. Bon, c'est un moyen comme un autre, mais ça permet quand même de garder les rênes ou de garder la barre du bateau en main.
À propos de bateau, nous allons écouter un extrait du film Le Voyage du Prince pour nous immerger dans son univers et les questions justement de voyage en bateau. C'est un dialogue entre le prince et le jeune Tom.
Est-ce là ton pays, Tom ? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville ?
On apprend à l'école que cela s'est fait en 6 jours.
En 6 jours, extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille !
Ailleurs ? Je crois que pour les Nuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette merveille, comme tu dis, il n'y en a pas d'autre.
Les Lanko aussi pensaient être seuls au monde. Mais le soir, depuis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge, comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu ? Non. Il y avait autre chose, il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je dessinais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas, au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Car je savais que mon peuple ne me suivrait pas.
Pourquoi ? Ils avaient peur ?
Non, mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes. Ils me disaient, à quoi bon, Seigneur ? On est bien ici. Et lorsque tu seras de l'autre côté, où auras-tu envie d'aller ? Dans un autre monde encore ?
C'est quoi un philosophe ?
Quelqu'un qui ne fait rien, mais qui a réponse à tout.
Ils ont bien raison, tes philosophes. Pourquoi 2 mondes et pas 3 ou 4 ?
Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter.
Est-ce que cette séquence, elle correspond à ce que vous aviez fait il y a plusieurs années lorsque vous avez réalisé l'animatique
oui.
sauvage ?
Oui, en gros. Alors évidemment, il y a des petites différences parce que, par exemple, quand j'ai rencontré Xavier Picard, c'est l'avantage aussi d'être co-réalisateur. C'est-à-dire, chacun a des domaines un petit peu supérieurs à l'autre et on se partage les bons points et les mauvais points, c'est ça qui est formidable. Donc, il y a une critique qui s'établit et puis on a corrigé les choses, on les a améliorées. Et de temps en temps, un dialogue se corrige avec Annick également. Mais l'important, c'est que le sens général soit maintenu et même souvent renforcé au moment de l'enregistrement des voix. Même avec le comédien, on peut, dans ma méthode de travail, je revendique le travail avec le comédien pressenti, parce qu'on n'a pas encore le financement pour l'enregistrer, mais au moins je sais qui va jouer le rôle.
Faites le casting avant le début de la production.
Oui, voilà. Et on fait des petits tests, etc. Et surtout, on discute du personnage. Bon, c'est ce qui est la moindre des choses.
Comment on choisit une voix pour un personnage ?
Alors, c'est très délicat, la voix. Parce que si on y réfléchit bien, la voix est le seul élément vraiment réel dans un film d'animation. C'est quelque chose qui nous ramène vraiment à la réalité de l'humain, alors que tout le reste est fantastique. On se demande parfois si on ne devrait pas trouver un moyen technique pour les dessiner, les voix, les peindre, de façon à ce que les voix s'intègrent encore mieux. Et quand c'est mal fait, les voix sortent de l'écran, sortent du dessin, et le spectateur ressent une sorte de malaise. Ça se produit aussi quand on demande à un comédien trop célèbre, trop fameux, trop connu, de faire un doublage ou de faire une création de voix. À ce moment-là, on écoute le comédien, on l'a reconnu, donc, et il se produit une distance entre le personnage et lui. Ça, c'est à éviter. Et ensuite, c'est un travail de relation assez intime. J'essaie de trouver aussi un petit décalage. C'est-à-dire, le comédien, Enrico Di Giovanni, dans Le Voyage du Prince, il est d'origine italienne. Il n'a pas d'accent du tout quand il joue. Mais si on lui demande de retrouver un petit accent de sa culture d'origine, il le fait. Et il peut le doser d'une façon incroyable. Donc, c'est ce que je lui ai demandé, parce que pour qu'il puisse jouer un étranger, c'était intéressant de lui donner un léger accent. J'ai fait des films avec des comédiens, par exemple, dans Gwen et le livre de Sap, j'ai demandé à Michel Robin de faire une vieille dame, hein, très âgée. Et bon, Michel, il l'a fait, et il est rentré dans quelque chose qu'il n'avait jamais fait. On ne lui avait jamais demandé de faire une vieille dame.
On l'entendra tout à l'heure, c'est la voix qu'on entend au début du film.
Oui.
On a préparé un extrait.
Ah d'accord, oui, ça me fait plaisir. Dominique Fro, qui a une voix absolument incroyable, dans Louise en hiver, j'étais tellement impressionné par la voix que, alors que j'avais déjà dessiné le personnage, puisque j'avais déjà presque terminé l'animatique, j'ai grossi le personnage pour lui donner plus de poids, plus de volume. Alors donc, c'est ça, les voix, c'est quelque chose qui, avec lesquelles il faut faire très attention, mais c'est pareil avec la musique. La musique peut être extrêmement dangereuse également.
Justement, à ce propos, vous avez travaillé avec Christophe Héral, qui a composé la musique du film. Comment s'est déroulée votre collaboration ?
Oui, alors Christophe, j'avais déjà fait un long métrage avec lui, qui était l'île de Blackmore, un film d'aventure maritime. Ça s'est passé formidablement. Alors, c'est très différent. J'ai travaillé avec trois musiciens depuis que je fais du long métrage. Pierre Alleran pour Gwen, Christophe pour L'île de Blackmore et puis Le Voyage du Prince. Et puis Pascal Le Pennec, avec qui j'ai fait le tableau, et Louise en hiver. Bon, ce sont des personnalités très, très différentes. À ce moment-là, je les approche, si je puis dire, en, en montant sur mon animatique une musique provisoire qui est une musique classique que je tire de ma discothèque personnelle. Et par exemple, dans l'île de Blackmore, il y avait une partition avec Debussy, Ravel et Janáček. Ça marchait très très bien. Et alors le danger, c'est que je reste avec cette musique provisoire pendant toute la durée de mon travail sur l'animatique. Et j'y suis tellement habitué que après, quand il faut la changer, c'est pas facile. Et surtout, Christophe Héral m'a dit, mais écoute, c'est vraiment très bien, mais je vais pas faire du Debussy, faire du Christophe Héral. J'ai dit, bon, d'accord, bien sûr, tu vas faire la musique que tu... Mais, et il l'a reconnu, c'est une approche qui lui donne des pistes, notamment des pistes sentimentales, parce que la musique, son rôle principal, c'est en effet de nous donner des sentiments, ou de renforcer les sentiments qui sont dans l'histoire, et ou parfois d'être, de faire un contrepoint avec, avec une séquence sentimentale. Donc, voilà, ça marche comme ça. Pour le film que je suis en train de préparer, j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'au lieu de faire comme je l'ai fait précédemment, avec une musique provisoire, qu'il faudra donc... là, je travaille sur la musique définitive du film. Parce qu'on a obtenu une petite aide, une aide à l'écriture, comme on dit, que l'on a pour le scénario, mais que l'on peut aussi avoir pour écrire de la musique. Et Pascal a fait la maquette du film, la maquette musicale, et mon animatique... sur le film que je suis en train de préparer, a gagné beaucoup avec cette technique, cette méthode.
Un autre collaborateur important, c'est Jean Palenchetin, qui était à l'illustration et au graphisme. Alors, quel a été son rôle avec, dans le travail du Voyage du Prince ?
Oui, mais alors là, c'est aussi une vieille collaboration. Jean est un peintre qui a fait... beaucoup de décors de films. J'ai commencé à travailler avec lui dans le Château des Singes et puis ensuite dans tous les films qui ont suivi. Alors, quand je fais ma fameuse animatique, je fais quelques gouaches ou quelques aquarelles tout à fait légères comme ça, sans prétention, mais qui me met un petit peu dans dans l'univers, dans la couleur du film telle que je la vois, mais d'une façon très très générale. Et ensuite, je demande à Jean, même si on n'est pas encore rentré en production, de faire une dizaine d'images définitives. Ça sert au producteur également d'établir les dossiers. Vous savez, il faut le financement. Le producteur ne peut pas montrer l'animatique que je suis en train de faire parce que c'est un truc qui est trop foutraque. Quoi. Vous montrez une animatique à un directeur de chaîne de télévision et il va dire, bah oui, c'est très bien, mais le film, il va être en image fixe, comme ça, en dessin, ou alors le film, il ne va pas être en couleur. Enfin bon, il ne comprend pas ce que c'est qu'une maquette. Jean fait quelques images, une dizaine, qui sont très très belles, parce que c'est un type qui a un talent incroyable. Et puis après, quand on rentre en production, je travaille avec le décorateur sur la totalité du film, en établissant ce qu'on appelle un chemin de fer entre nous, c'est-à-dire des petites vignettes format carte postale qu'il fait sur papier. Hein. Il peut le faire aussi sur palette graphique. Mais il en fait un certain nombre qui va me permettre d'établir l'importance sentimentale. Donc c'est... la musique et la couleur vont être exactement au même niveau. c'est-à-dire un niveau qui ne parle pas tellement à l'intellect, beaucoup moins que le récit, que le, etc. Là, c'est quelque chose qui vous parle au ventre, ça doit vous attendrir, ou ça doit au contraire vous heurter. Et la couleur, c'est pareil. On va établir les séquences qui vont être rouges, ou qui vont être noires, ou qui vont être bleu tendre, en fonction des émotions qui vont apparaître à ce moment-là. Et ça, c'est un travail formidable. Mais je m'aperçois que cette méthode qui paraît évidente, je l'ai pratiquée à peu près depuis le début de mon travail en collaboration, c'est-à-dire depuis que je fais du long métrage.
De quelle manière avez-vous collaboré avec le reste de l'équipe quand la production s'est étoffée ?
Alors, il y a plusieurs étapes. La deuxième étape, à partir de l'animatique, si le producteur a réussi à trouver le financement du film, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est de constituer une première équipe, mais réduite. Je pense qu'entre 3 et 6 personnes, c'est idéal.
Ce n'est pas vous qui les choisissez, ces personnes ?
Si, bien sûr. Oui, oui. Et avec Xavier Picard, c'est plutôt lui que moi, parce qu'il connaissait déjà les gens du studio dans lequel le film a été produit.
Blue Spirit.
Blue Spirit à Angoulême. Et donc le choix, c'est lui qui l'a fait. C'est des gens que je connaissais un petit peu, puisqu'on avait fait le tableau ensemble. Et avec cette première équipe, il va falloir modéliser les personnages. C'est-à-dire, moi, mes dessins, ils sont vraiment moches. Il va falloir que les personnages trouvent leurs véritables proportions, leurs dessins, etc. Ça prend du temps. Finaliser un personnage et surtout les finaliser entre eux. C'est-à-dire, quand on dessine les personnages, on ne les dessine pas tout seul. On les dessine toujours les uns à côté des autres, puisque dans le film, ils seront les uns à côté des autres, tout simplement. Et puis, il faut les différencier, les opposer. Enfin, le créateur d'un personnage, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui doit être terriblement conscient de la psychologie du personnage qu'il dessine et de ce qu'il va devoir exprimer tout au long du film. Alors on les dessine, on les modélise, c'est-à-dire de façon à ce qu'on puisse les faire tourner sur eux-mêmes. Donc ça devient de la 3D à ce moment-là. Même si ensuite on va revenir à la 2D, c'est-à-dire qu'on va écraser le volume, de façon à ce qu'on revienne à un dessin qui s'intègre parfaitement.
Des aplats, en fait.
Décor, voilà.
De couleurs également.
Reviennent à des aplats. Mais il y a un moment où il faut qu'ils soient en volume, parce qu'ils vont être animés en volume, les personnages. Moi, j'ai fait des films où les personnages, avant la 3D, n'avaient pas de volume du tout. Et donc, ils ne pouvaient pas tourner sur eux-mêmes. Ils se déplaçaient de façon... se déplacer de profil, etc. Bon,
j'ai fait cette animation en 3D, vous la suivez vraiment, ou c'est un rôle qui est plutôt dédié dans ce film à Xavier Picard ?
Alors, c'est plutôt Xavier Picard, et ce sont les directeurs d'animation. C'est-à-dire, là, on rentre à ce moment-là dans une troisième étape où on n'en est plus à faire des tests, mais à constituer des équipes qui vont réaliser concrètement le film. Et dans chaque équipe, bon, c'est assez hiérarchisé, en fait. Il faut qu'il y ait un directeur d'animation, comme il faut qu'il y ait un directeur pour les décors, etc.
Et vous voyez avec eux, vous finalisez les plans une fois qu'eux ont avancé le travail sur l'animation, sur les décors, sur la musique aussi ?
C'est un problème de confiance. D'abord, on réunit... que ce soit l'équipe des décorateurs ou l'équipe des animateurs, on les réunit pour s'assurer qu'ils ne vont pas partir dans des expressions qui qui fasse sortir les personnages du film. Moi, j'ai une façon de mettre en scène qui est très sobre. Et, les personnages, ils partent pas dans tous les sens. C'est pas des aventures très lyriques, très mouvementées, très conflictuelles. Au contraire. Donc, on demande aux animateurs d'essayer de plutôt regarder ce qu'ils vont faire comme de la prise de vue réelle et non pas comme du dessin. Parce que le dessin, c'est facile, en effet, on peut le déformer, etc. Mais si on pense qu'on n'est pas seulement, on n'est plus animateur, mais on est comédien, on est le comédien du personnage. Et c'est pas avec les gestes que l'on va exprimer ce que le personnage doit dire, mais avec l'intérieur, c'est ce qu'on apprend quand on fait du mime, par exemple. Le mime est un très bon exemple pour les animateurs. Et on leur demande souvent, est-ce que vous avez fait du mime? Bon, c'est très rare qu'ils en aient fait. Ce sont plutôt des dessinateurs. Mais s'ils peuvent compléter leur formation dans les écoles, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que je ne connais pas les écoles d'animation, mais par le mime, ça me semblerait vraiment... Parce qu'un bon prof de mime, il va demander à son élève d'intérioriser le mouvement.
Et donc ensuite, au niveau de la production, quand est-ce que tout se finalise? Est-ce qu'il y a un moment où, comme dans un moment, tout le film est monté, mixé? Et est-ce que vous êtes toujours présent à cette période-là?
Dans Le Voyage du Prince, ça s'est passé de façon très harmonieuse, parce que moi, je reconnais que je ne suis pas très fort en technique, surtout les techniques 3D. C'est-à-dire, je ne vais pas contrôler leur travail. Ils en savent beaucoup plus que moi. Simplement, si Xavier me montre quelque chose sur lequel il se pose des questions, je peux lui donner mon avis. Je peux dire, oui, il en fait trop, c'est pas la peine qu'il... Alors, ça se passe comme ça. C'est pour ça que l'animatique est aussi importante. C'est qu'ensuite, quand on rentre en fabrication ou en réalisation, les gens sont suffisamment responsables pour poursuivre ce qui a été décidé. Alors, il y a des étapes, évidemment, l'étape de la couleur, l'étape de ce qu'on disait quand on passe de la 3D à la 2D, il faut tout aplatir, l'étape des effets spéciaux, le compositing est tellement important. Et à ce moment-là, Xavier m'a demandé si on pouvait retravailler ensemble, alors que c'est lui qui avait dirigé toute la partie animation, pour harmoniser les différents niveaux, au niveau des décors, au niveau des effets spéciaux, au niveau des personnages, de l'animation, etc., de la couleur, des contrastes, machin, sur l'image définitive. Et après, il y a encore du boulot, parce qu'il y a le montage final, parce que dans les plans, de temps en temps, il faut couper, comme vous allez le faire avec mon enregistrement.
Ou dans n'importe quel film.
Il faut couper, beaucoup moins que dans la prise de vue réelle, parce qu'on n'a pas un choix énorme. On n'a qu'une prise, on n'en a pas 25. Mais il faut quand même couper un peu. Et puis, travailler avec le son, bien sûr. Mixage. Alors, c'est au mixage que l'on voit si le film est vraiment réussi.
Est-ce qu'il est réussi, ce film? À votre goût?
Non,
par rapport à l'animatique sauvage?
C'est pas à moi de le dire. Et puis, moi, je suis incapable de juger. En général, quand un film est terminé, j'y trouve tellement de défauts que je veux surtout pas le voir. Et c'est par la suite, c'est un an ou deux plus tard, que il m'arrive de revoir un film, mais jamais avec beaucoup de plaisir. Mais je le revois et puis je me dis, c'est pas trop mal.
Donc pour mieux vous connaître et mieux connaître comment vous en êtes arrivé là, on va en revenir à vos débuts dans le cinéma. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières aventures? Les premiers films que vous avez vus, les premières lectures que vous avez faites?
les premiers films que j'ai vus. Alors oui, c'est par étapes. Quand j'étais gamin, on n'avait pas la télévision, donc aller au cinéma, c'était un événement extraordinaire. Le premier film qu'on m'a emmené voir, de voir 7-8 ans, c'était Blanche-Neige de Disney, et j'étais absolument terrorisé, j'étais sous mon fauteuil, tellement j'avais la trouille. C'est impressionnant, hein, c'est comme la première fois qu'on voit la mer. C'est... Et ensuite, j'allais souvent au cinéma tout seul, parce que j'étais fils unique, mais je suis un enfant de la banlieue, mais on allait voir mes grands-parents à Paris, et on me donnait un peu d'argent, et puis je descendais sur le boulevard pour aller au cinéma tout seul. Je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Et c'est principalement les films d'aventure. J'ai vu tous les films de pirates, tous les polars américains, les westerns des années 60. Et puis, j'ai une carrière de dessinateur, enfin j'ai une formation de dessinateur. Je vais dans une école pendant 4 ans, aux arts appliqués, et je me retrouve avec des camarades qui sont plus cultivés que moi, qui avaient vu plus de films que moi et d'autres films. Et l'un d'eux m'entraîne, je me rappelle, au studio 28 à Montmartre, hein, voir Le Septième Sceau de Bergman. Et je crois que c'est là que j'ai compris que le cinéma était un art aussi important que la peinture ou que la musique. Parce que jusqu'à présent, c'était un divertissement avec les films d'aventure que j'avais vus jusqu'à présent. Et là, je suis devenu vraiment un cinéphile acharné. Acharné.
C'est quoi être un cinéphile acharné? C'est voir plusieurs films par jour?
C'est d'aller à la cinémathèque, en effet, de passer d'une séance à l'autre, et puis de voir toute la filmographie d'un auteur.
Quelles étaient vos lectures quand vous étiez enfant ou adolescent?
Alors par contre, je voyais peu de films, on n'avait pas la télé, mais je lisais énormément. C'était, je sais pas, c'est difficile de parler de... Quand on a lu beaucoup, de qu'est-ce qui vous a sorti? Alors, quand on est jeune, ça peut être Jules Verne. J'ai lu tous les Jules Verne, ou les Jack London, ou les... Mais plus tard, c'est la poésie. J'ai découvert Jacques Prévert avec Jacques Colombin, avec qui j'allais à l'école aux arts appliqués, au moment du livre de poche. Le livre de poche Gallimard est sorti après la guerre, et il est devenu absolument indispensable dans les années 60. Parce qu'il ne coûtait pas cher. On le mettait en effet dans sa poche et on lisait. Moi, je venais de la banlieue, donc je lisais beaucoup dans le train. Le premier Prévert qui est sorti en livre de poche qui s'appelle Parole ne m'a pas quitté pendant des mois et des mois. Et il se trouvait que Paul Grimaud est venu aux arts appliqués parler de son travail. Et il a projeté Le Petit Soldat, des merveilles comme ça. Et pour Jacques et pour moi, ça a été révélateur. On a dit, bon, ben c'est... Et c'était avec Paul Grimaud, c'était Jacques Prévert qui était en même temps présent en nous.
Donc c'est comme ça que vous êtes passé du dessin au cinéma?
Je voulais faire du théâtre aussi. Je voulais faire du décor de théâtre.
Vous avez fait une école qui prépare au décor de théâtre?
Oui, l'école de la rue Blanche. Mais j'aurais voulu être comédien aussi, ce qui était absurde, tellement j'étais timide. Mais à l'école de la rue Blanche, il y avait des cours de comédie, bien sûr. Donc je me glissais comme ça en secret. Je passais dans les cours et puis je me mettais dans un coin. Et j'écoutais les comédiens, j'étais... Le cinéma, mais ça m'a aidé hein, d'aller beaucoup au théâtre à cette époque-là. Je crois que ça m'a aidé dans mon travail.
On trouve dans votre cinéma également beaucoup de peinture. Est-ce qu'il y a des artistes peintres qui vous ont marqué?
Oui, alors là, c'est comme la lecture. Il y en a tellement. J'ai eu des périodes comme ça. J'ai eu des périodes où les peintres naïfs me touchaient beaucoup et m'ont aidé aussi un petit peu dans ma façon de faire. Et puis les surréalistes, hein, Géricault, Delvaux. Mais vous savez, on pourrait dire des sortes d'éponges, quoi. C'est-à-dire les choses vous pénètrent et on ne sait plus très bien comment les discerner. Et à condition aussi de ne pas se sentir submergé, de ne pas se sentir étouffé par l'universalité de l'art. Donc, peut-être par prudence, je me suis contenté. Par exemple, en musique, il y a des secteurs musicaux que je n'ai pas approfondis. Peut-être volontairement, parce que j'avais trop de passion et d'amour pour d'autres périodes et que je pensais que ça me suffisait, me nourrissait suffisamment.
Votre premier court-métrage, La Demoiselle et le violoncelliste, c'est le poème d'une rencontre amoureuse entre la plage et l'océan, qui est fait de papier découpé qui glisse. Comment s'est passée la réalisation de ce premier film pour vous?
Comme vous le dites, c'était le plus simplement du monde. C'était plus facile pour moi d'imiter ce que j'avais vu faire par Jacques Colomba, qui a fait un premier film en papier découpé chez Paul Grimaud. Il s'appelle « Marcel, ta mère t'appelle ». Et comme il m'avait entraîné au Festival d'Annecy dans les années 60, 62, 63, où une grande partie des films qui étaient réalisés à cette époque provenaient d'Europe centrale, provenaient de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne. Et c'est des gens qui nous éblouissaient parce qu'il y avait une grande variété technique de l'image. On avait l'impression qu'on pouvait faire de l'animation avec n'importe quoi, avec du sable, avec de la poudre. Avec
toutes les matières, en fait.
Avec toutes les matières, avec des bouts d'allumettes, des choses comme ça. Du moment qu'on avait quelque chose à raconter, et c'était un moyen d'expression très éloigné du dessin animé. Enfin, ça n'avait pas de vocation de faire des films pour enfants.
C'était pas Walt Disney.
C'était loin. C'était loin de Disney, alors que Disney faisait la loi à ce moment-là, au niveau de la planète, sur le dessin animé mondial.
Vous les regardiez, ces films de Disney, à l'époque?
Non. Non, on était anti-disneyens. Alors qu'après, je me rappelle avoir revu des Disney que je n'avais pas vus, des premiers, j'étais ébloui. Oui, ça, extraordinaire, mais c'était pas mon monde, c'était pas. Et puis c'était quelque chose qu'on pouvait faire tout seul, quoi. Un court métrage avec du sable, c'est voilà. Alors le papier découpé, ça me parlait bien, et j'ai fait quand même plusieurs films en papier découpé parce que j'avais pas la curiosité d'expérimenter une autre technique, sauf la peinture à l'huile. Oui, j'ai fait deux, trois films avec de la peinture à l'huile éclairée par-dessous. C'est quelque chose qui me plaise bien. J'aurais aimé faire avec du café, par exemple. La poudre de café soluble, c'est une matière extrêmement agréable à manipuler. Et rétrospectivement, si j'avais 20 ans à nouveau, je voulais faire un court-métrage avec beaucoup d'imagination. Je mettrais du café sur une vitre éclairée par-dessous, et avec un pinceau, je commencerais à faire transparaître la lumière. Je pense qu'on doit pouvoir faire des... Oui, il y a certainement des films qui ont été faits comme ça.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous lancez pas justement dans un petit court-métrage comme ça?
Oh, je crois que j'aurais plus la patience. En fait, je me suis demandé, même souvent, pourquoi j'étais passé du court-métrage au long-métrage. C'est parce que dans la traversée de l'Atlantique à la rame, qui est mon dernier court-métrage, je suis resté quand même presque 2 ans tout seul. Donc j'ai ramé tout seul.
Comme les personnages dans le film.
Oui. Et encore, ils étaient 2 dans le film. Alors, c'est un travail solitaire. Et le cinéma, c'est vraiment agréable quand c'est une conception plutôt collective.
À propos de la traversée de l'Atlantique à la rame, on a préparé un texte, une lecture que vous allez nous faire d'un passage du film qui raconte comment un couple amoureux se lance, comme le titre l'indique, dans une traversée de l'océan Atlantique, dans une petite barque propulsée par des rames. Ils tiennent un journal de bord de ce voyage qui devient peu à peu fantastique.
Alors je me rappelle qu'à l'époque, je pensais qu'il était impossible de traverser l'océan Atlantique à la rame. Or, depuis, ça a été fait de nombreuses fois. Mais pour moi, ça devenait une histoire utopique. Et bon, c'est pour ça que ça m'intéressait. Sinon, si j'avais su que ça pouvait se faire, je ne l'aurais pas fait. Donc, dans le film, les personnages... Ils mettent 30 ans et encore, ils n'arrivent pas au bout. Et dans le texte que vous me proposez là de lire, c'est dans la dernière partie du voyage où ils commencent seulement à regarder autour d'eux, c'est-à-dire à apprécier l'extraordinaire beauté de l'océan, alors que... Il ne s'agit plus de faire une performance, mais ils sont devenus vieux et ils peuvent prendre le temps de regarder autour d'eux. Alors, je crois que nous arrivons déjà au bout de notre voyage. La Terre n'est pas loin, nous la devinons. Hier, nous avons vu des dauphins. Oui, c'est la première fois. C'était magnifique. Finalement, notre voyage aurait été bien court. Oui, bien court. Le 1er juin 1957, une barque est venue s'échouer sur une plage de sable. Elle était vide. À l'intérieur, on a trouvé un petit cahier à moitié rongé par l'eau de mer. Sur les dernières pages, les occupants du canot n'avaient noté que des choses sans importance. Le dessin d'un poisson, la couleur d'un nuage. Ça va ?
Comme la fin d'un poème, finalement.
Oui. Bah, c'est vrai que je conçois un peu mes films comme des poèmes.
Alors, un autre de vos poèmes, plus long celui-là, c'est Gwen, le livre de sable, sorti en 1984, votre premier long métrage. On va écouter un extrait du personnage du film, donc la vieille dame, qui nous présente l'univers alors que l'on découvre à l'image les paysages de ce monde ensablé.
Vite les légendes. Lorsque j'étais enfant, le soir auprès du feu, mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde. Pendant des jours et des jours, le vent, l'eau, le feu avaient balayé les collines et les vallées, effaçant tout sur leur passage. Et lorsque l'orage enfin s'en alla, il ne restait plus que du sable. Du sable, et quelque part vers le nord, une chose terrible que les dieux avaient laissée derrière eux et qui, patiemment, attendait leur retour. Le temps a passé. La vie s'était recroquevillée sans disparaître tout à fait, car elle n'y arrive pas quoi qu'on fasse. Et dans les replis du sable, doucement, je suis devenue une vieille femme de 173 ans. À chaque lune, la chose se réveillait et venait rôder au-dessus du désert. pour s'assurer peut-être qu'elle en était bien maître. Nous l'appelions le Makou, ce qui veut dire gardien dans le langage des sables. Ces nuits-là, caché au fond des puits avec les autres, je baissais la tête sans poser de questions. Et le lendemain, la vie reprenait son cours, insouciante en fin de compte, car l'aube efface les mystères de la nuit. Et c'est à leur tour de se recouvrir de sable.
Qu'est-ce qui vous a poussé au long métrage, Jean-François Laguioni ?
Ben, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire le désir de travailler en équipe. Ça, c'est essentiel. Peut-être le désir de sortir un peu du réseau des festivals. Parce qu'en fait, la seule façon de voir nos films pour les spectateurs, c'est d'aller dans les festivals, ce qui est quand même un petit peu limité.
Les courts-métrages, à l'époque, étaient surtout dans les festivals ?
Étaient principalement... Il y en avait quelques-uns qui bénéficiaient d'un système qui était pas mal. C'était avant... Dans la distribution d'un long métrage, en première partie, on passait un court métrage et c'était parfois un documentaire et parfois un film d'animation. Mais c'était quand même très rare. Ça m'est arrivé 3 fois sur tous les courts métrages que j'ai réalisés. Je me disais, bon, ben, j'aimerais bien que mes petites histoires de rien du tout, elles aient accès à un public plus large, plus populaire, moins averti. Alors, c'est sans doute la deuxième raison. Il n'y en a pas d'autre.
Est-ce que vous pensez que l'histoire de Gwen, elle aurait pu être racontée dans un court-métrage de 10 ou 20 minutes ?
Oui. Je pense 20 minutes, comme la traversée de l'Atlantique. Alors. Mais les films de 20 minutes étaient trop difficiles, étaient encore plus difficiles à montrer qu'un film de 10 minutes. Les cours, on essayait de les faire entre 5 et 10 minutes. Non, Gwen, le long métrage lui convient bien en tant que durée, mais pour le public de l'époque, qui n'était pas habitué à un rythme aussi lent, il aurait fallu quand même qu'il y ait des aventures un petit peu plus spectaculaires.
Justement, quel rapport au temps ça construit un long métrage par rapport à un court métrage ? Comment est-ce que vous avez utilisé cette heure, le film dure 1h10.
Oui.
Comment est-ce que vous avez utilisé toute cette durée pour travailler le rythme et le temps du film ?
Ça, c'est très mystérieux, hein, le problème du temps au cinéma. Il y a des films qui paraissent très courts et qui sont au contraire dans un rythme très long. On ne sait pas pourquoi. Et d'autres, c'est l'inverse. Moi, il y a les films trop agités, qui sont sur un rythme frénétique pendant presque toute la durée d'un film, ça m'ennuie tellement que au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en ai assez, j'ai envie de sortir. Alors, Gwen, j'avais une histoire qui avait besoin de la durée, parce que c'était un voyage, une fois de plus. Un voyage dans le sable. Alors, c'est pas facile de marcher dans le sable. Surtout avec des échasses, j'ai jamais essayé, mais ça ne doit pas être possible. Et l'idée d'un temps, du temps aussi, était consécutif à une catastrophe qui s'était produite et qui avait arrêté le temps. À l'époque, je baignais dans la littérature post-atomique, science-fiction, américaine ou anglaise, toutes les catastrophes imaginables. Et l'idée d'une civilisation mise complètement à l'écart sous le sable, je ne pouvais pas raconter ça en 5 minutes, ce n'est pas possible.
Est-ce que le film est un film un peu psychédélique ?
Qu'est-ce que vous entendez par psychédélique ?
Le psychédélique au sens comme les films de Jodorowsky.
Ah oui, c'est vrai que c'est un petit petit peu la même époque, je crois. Sans doute. Hein. Mais j'ai beaucoup de mal à qualifier, hein, vous l'avez remarqué depuis qu'on a enregistré, à qualifier mon travail ou à me qualifier moi-même avec des adjectifs.
Vous avez du mal à dire que, par exemple, le film est psychédélique ou au contraire qu'il est méditatif ?
Méditatif, sans doute, oui. Sans doute, moi, les premières projections, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'endormaient pendant la projection du film. Alors, ça me faisait un petit peu de peine. Mais par contre, quand ils se réveillaient et qu'on discutait sur le film qu'ils venaient de voir, enfin, d'en voir une partie, ils étaient très heureux. Donc, je me disais peut-être que ce film a des vertus
thérapeutiques
ou autres. Ça me plaisait bien.
Le film date des années 80. C'est aussi un moment où le cinéma d'animation japonaise a connu un essor, en tout cas, qu'on peut voir comme ça aujourd'hui avec le studio Ghibli, Isao Takahata ou Hayao Miyazaki, dans des thèmes qui sont proches des vôtres. Des films d'aventure qui s'adressent aussi à des adultes, qui aussi allaient contre les films Disney dans leur narration. Est-ce que vous avez connaissance de ces films à l'époque, ou est-ce qu'il y a eu des ponts qui ont été possibles entre la France et le Japon à ce niveau-là ?
Alors, je crois que les films japonais sont arrivés en France plus tard. Le premier film japonais que j'ai vu, c'est Porco Rosso, dans un avion qui m'emmenait justement au festival d'Hiroshima. J'étais ébloui, mais je ne connaissais absolument pas. Alors là, c'était quand même en 86-87, quoi. C'était quand même un peu plus tard. Mais j'ai appris que Takahata, que j'ai rencontré plus tard et avec qui on a pas mal échangé, il avait une très grande admiration à l'époque pour Paul Grimaud. C'était pour lui le plus grand réalisateur occidental. Quoi. Et que Paul l'avait beaucoup influencé. Et donc ça m'a fait plaisir. J'ai regardé les films de Takahata. J'étais plutôt attiré par les films de Takahata plus que Miyazaki. Peut-être parce qu'il y a cette dimension humaniste et parfois méditative, en effet, dans son cinéma. Mais c'est comme avec le cinéma japonais. On n'était pas dans la même dimension. On n'avait pas les mêmes budgets, etc. Moi, entre-temps, j'avais fondé la Fabrique, donc on était...
Votre studio de production ?
Oui, dans une démarche de survie. Mais je dois reconnaître que le cinéma japonais nous a fait énormément de bien, surtout au public, pour montrer que le cinéma peut être autre chose.
Que Disney ?
Qu'une distraction.
Que le divertissement, en fait.
Pour enfants. Et... À ce moment-là, les choses ont commencé à évoluer. On n'est pas encore arrivé totalement à la maturité. Il y a des expériences. Il n'y a pas encore assez de films. Moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait trois fois plus. Et il n'y a que comme ça que peu à peu, le public ira voir un film d'animation comme on va voir un film de Wim Wenders, on ira voir un film de Aguilini, c'est plus la peine, mais je ne sais pas qui, de la même façon, c'est-à-dire un film d'auteur. Le film d'animation, il est encore un petit peu considéré comme marginal.
Alors que les premiers films étaient des films d'animation avant le...
Oui.
Au début de la création du cinéma, on a inventé la projection des images animées avant la prise de vue.
Oui. Oui, c'est vrai.
Donc pour continuer, on va parler de votre rapport à la lumière. Quelle matière est-ce que c'est la lumière pour un dessinateur cinéaste ?
Bah, ça dépend comment on dessine. Tout à l'heure, on est arrivé à une conclusion qui est que le film d'animation est d'abord un film avant d'être du dessin. Ça, pour moi, c'est vraiment très clair. Justement, à cause de cette notion de la dimension du temps dans la narration. La lumière, on peut faire des films sans lumière, on peut faire des films qui sont tellement graphiques que la lumière n'intervient pas, par exemple. Faire des films avec des traits, on peut faire des films avec des taches, on peut faire des choses. Mais si on raconte une histoire, non pas pour un public spécifique, c'est-à-dire le public des festivals, on a quand même besoin de, enfin selon moi, d'avoir un langage cinématographique qui n'est pas trop abstrait. Alors, moi, c'est ma façon de travailler, mais je conçois très bien qu'on puisse travailler complètement différemment. Bon, moi, j'ai besoin de la lumière. C'est-à-dire, quand je dessine avec des ombres, je dessine... en général, c'est la deuxième étape. Mon dessin, il est seulement en crayon, et puis assez rapidement, je mets des ombres. Ça me permet aussi d'orienter mon récit. C'est-à-dire de savoir de quel côté la lumière, de quel côté le soleil est, ou se couche. Donc ça veut dire qu'on va vers l'est ou on va vers l'ouest. Et pour moi, c'est important. C'est ma façon de faire de la géographie.
Donc, la lumière, c'est un outil essentiel du langage cinématographique.
Oui.
Est-ce qu'entre vos débuts et aujourd'hui, avec les techniques d'animation en 3D hybride dont on a parlé, est-ce que ça reste essentiel ?
Oui, bien sûr. Et puis, la 3D permet d'ailleurs de jouer avec la lumière beaucoup plus facilement qu'avec une technique classique. Mais elle a un rôle sentimental aussi, finalement. On parlait de la couleur tout à l'heure. Mais contraster une scène, c'est lui donner une autre intention que si, au contraire, la scène est très douce. Non, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais puisque vous me posez la question, je crois que je fais des films qui sont plus en lumière qu'en couleur. Et ça va être le cas du film que je suis en train de préparer, là, qui pourrait être en noir et blanc, d'ailleurs.
De quels outils est-ce que vous disposez pour la travailler, cette lumière ?
Alors, au niveau de la maquette ou au niveau du film proprement dit ?
Pour les deux, est-ce que vous...
Dans la maquette, c'est du dessin. Donc, je fais ma lumière en dessinant. Et des fois, c'est même avec le doigt. Je dessine avec des crayons très, très gras. Et donc, j'ai les mains pleines de plomb. Et je barbouille. Enfin, ça, c'est ma petite cuisine personnelle. Mais par contre, dans le film, moi, je ne sais pas, il faudrait demander... à Xavier, il faudrait demander aux gens qui font la 3D comment pratiquement ils orientent la lumière.
Est-ce que quand on pose ces cadres dans un film animé, est-ce que ces cadres sont toujours parfaits ?
Ah non, alors vous parlez du cadrage.
Oui.
Alors, si vous faites... Si vous faites un film comme on le fait jusqu'à présent trop souvent dans le dessin animé avec des storyboards, alors là vous établissez un cadre arbitraire, c'est-à-dire que vous allez dessiner à l'intérieur d'un cadre. Alors, je ne sais pas si c'est encore enseigné dans les écoles, mais je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que en dessinant, on se sent enfermé. Enfin, moi, je me sens enfermé. Je ne peux pas dessiner dans un cadre. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment je faisais mon animatique. Je dessine librement sur des feuilles qui n'ont pas de cadre. Et c'est en photographiant mes dessins que je fais mon cadre. Et à ce moment-là, je suis beaucoup plus libre par rapport au dessin parce que je peux m'approcher du dessin, donc faire un cadre serré, où je peux m'en éloigner beaucoup et faire un cadre très large. Et j'ai le sentiment, avec cette méthode, de faire davantage du cinéma que du dessin animé. C'est-à-dire, c'est mettre son œil dans l'appareil photo et de viser. Quoi, on ne s'en rend pas compte, mais mentalement, je suis sûr que ça a des tas de répercussions sur la façon dont vous visualisez la scène.
Un peu comme quand on prend une photo avec un appareil photo Leica,
oui.
Où le cadre est élargi, oui. Par rapport au cadre de la photo, voilà. Qui permet justement de pouvoir bouger à l'intérieur.
Voilà, exactement.
Alors on a parlé d'images, on va parler un peu de son. Nous allons écouter un court extrait de Louise en hiver, situé à la 10e minute du film, une séquence onirique qui rappelle visuellement vos premiers courts-métrages océaniques. Alors, les auditeurs qui auront été attentifs au son, puisqu'ils n'ont pas l'image, auront vu qu'il y a de la musique et des bruitages. Comment travaillez-vous le son numérique ? Est-ce que vous êtes présent lors de cette phase de réalisation ? Est-ce que c'est vous qui choisissez aussi les bruitages du film ?
Ah oui, bien sûr. Le son, on n'a pas besoin d'être 50, alors que sur l'image, on a besoin d'être aussi nombreux. Donc, et puis c'est tellement important dans mes films. Mais je crois que la musique est plus importante que le son. Quand vous parlez de bruitage, par exemple. Le bruitage, je m'en méfie autant de la voix, parce que c'est quelque chose qui nous ramène à quelque chose de réel. Alors, en fait... Par exemple, avec Christophe Héral, il est tellement passionné de son que lorsqu'il fait la musique d'un film, il demande à faire le son également. C'est-à-dire, on n'appelle pas ça du bruitage. C'est-à-dire, même si on dépose un verre sur la table, le son doit être une note de musique. Et on essaye de lui enlever sa réalité. Donc, de plus en plus, on n'enregistre plus le son comme un bruiteur à l'ancienne. C'est-à-dire, il mettait vraiment le verre sur la table. Et puis, mais ce son-là, on va le reconstituer un petit peu de façon numérique. Je crois que beaucoup de cinéastes procèdent de cette façon-là. Et dans le film d'animation, c'est encore plus évident, je crois.
Autre question. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi, à votre avis?
Bah écoutez, je ne peux pas l'imaginer, parce que j'ai fait que ça toute ma vie. Et puis donc je n'existerais pas s'il n'y avait pas de cinéma. Il n'y a pas que le cinéma. Bon. De temps en temps, je me dis, bon, bah, quand je vais arrêter de faire des films, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, je vais faire de la musique et puis est-ce que je vais faire de la peinture ou est-ce que je vais écrire? Bon, je vais faire un petit
avec peu... le cinéma, vous pouvez faire tout ça en même temps.
Voilà. Et c'est la richesse de ce moyen d'expression qui est quand même extraordinaire, puisqu'on réunit, parce que ça va plus loin que ça. Donc en effet, on réunit l'écriture, la peinture, la musique, le mime, on en parlait, la danse, le jeu de l'acteur. Et tout ça ensemble, ça rentre dans ce moyen d'expression extraordinaire qui est le cinéma. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'expression qui est aussi riche que ça. Et parfois, ça fait peur. On dit, ben non, on ne peut pas mettre tout ça dans un film. On ne va pas tout mettre. On va mettre... C'est pour ça que j'aime tellement les films en noir et blanc. Ou que j'aime tellement les films... Mais parce que ça enlève un peu de richesse et ça le fait, à ce moment-là, ça rend le film un peu étrange et un peu au-dessus de ce qu'il raconte, de ce qu'il exprime, de façon plus mystérieuse.
Est-ce que vous pensez que comme le cinéma en prise de vue réelle, où maintenant on peut faire des films avec trois fois rien, un téléphone et monter sur son ordinateur, est-ce que vous pensez que le film d'animation... Est-ce que dans 20 ans, on pourra faire du film d'animation de façon très simple techniquement et se concentrer peut-être sur raconter des histoires ?
Oui, ça doit être le cas d'ailleurs. Dès maintenant, on doit pouvoir faire ça techniquement. Mais c'est pas à moi de... Moi, je fais partie de l'arrière-garde. Je pense que les cinéastes d'aujourd'hui ils doivent penser en effet à ça. Essayer de réduire les coûts, parce que ça coûte trop cher, c'est trop long à faire. Si j'avais pu faire un film tous les deux ans, j'en aurais fait plein. Est-ce que là, c'est trop long, c'est trop cher, il faut trouver... C'est très long pour trouver de l'argent. Alors, on fait un film tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans.
Justement, on s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain film ?
Oui, je peux vous en parler parce que je suis absolument pas sûr qu'il va se faire. Donc on a...
Il n'y a pas encore l'argent.
Voilà, exactement. Et c'est le moment où on peut parler d'un film. Mais une fois qu'il démarre, il ne faut pas en parler. Alors, je peux vous en parler. Oui, c'est un film, c'est une histoire qui m'est venue en retrouvant des photos d'enfance de ma famille dans les années 50, c'est-à-dire tout de suite après la guerre. J'avais une dizaine d'années et on arrivait en banlieue parisienne. La banlieue qui était la banlieue des années 50, une banlieue vraiment pépère. Le film va raconter deux voyages parallèles. Le voyage du plus grand navigateur qui soit, qui est navigateur solitaire, qui est Joshua Slocum, qui a été le premier à faire le tour du monde à la voile, en solitaire, en 1895. Il n'est pas très connu en France, il est très connu aux États-Unis, mais pour les marins, c'est le pape, c'est le champion du monde. C'est une espèce d'icône. Ce voyage, je vais le mettre en parallèle avec un voyage qui ne se fait pas, c'est-à-dire un voyage immobile, qui est la construction d'un bateau. Dans le jardin du pavillon de banlieue où j'ai grandi. Parce que mon père s'était mis dans la tête de construire un bateau. Alors pourquoi il avait envie de construire un bateau ? Et pourquoi ce bateau, il n'arrivait pas à le terminer ? Donc c'est deux voyages que je traite en parallèle.
Vous avez déjà fait de l'animatique ?
Oui.
Oui ? Donc, il ne reste plus qu'à trouver de l'argent.
Vous avez une idée ?
On peut lancer une souscription populaire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Laguioni, d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, negatif.co, vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt.